Bienvenue dans le podcast Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des investisseurs et professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez commencer à investir dans l'immobilier ou trouver de nouvelles sources d'inspiration pour vos projets? Ce podcast est fait pour vous.
Actuellement banquier à Nouméa, Bernard Olivier participe à une première opération d'investissement immobilier avec des amis, puis se lance rapidement dans l'achat et la rénovation d'un ensemble immobilier de plusieurs appartements. Bernard Olivier nous raconte son parcours semé d'embûches et nous explique comment il s'en est sorti, là où certains auraient peut-être fait demi-tour. Travaux de rénovation, gestion de chantier, montage financier en SCI, Bernard Olivier vous dit tout sur son parcours qui ne vous laissera probablement pas indifférent. Bernard Olivier se lance par la suite, avec sa compagne, dans un projet de construction de leur résidence principale, une maison de 2 x 250 m² sur 2 niveaux, offrant une magnifique vue mer dans un quartier très prisé de Nouméa. Au fil du temps, il a su développer de réelles compétences de maître d'ouvrage, de maître d'œuvre et également de chef de chantier. Cet épisode est vraiment rempli de pépites pour tous les investisseurs qui souhaitent se lancer dans un projet de construction et de promotion immobilière à petite échelle. Sans plus attendre, laissons place à Bernard Olivier Loud.
Bernard Olivier Loud, bonjour, merci de m'accueillir chez toi pour cet épisode du podcast. Donc, je sais que tu as été très pris parce que tu es en train de construire ta maison. En fait, c'est la maison où on se trouve en ce moment. Hein. C'est encore un chantier. Je sais, donc du coup, tu as beaucoup de boulot avec ton travail plus le chantier. Et je voulais vraiment t'interviewer aujourd'hui parce que c'est hyper intéressant ton parcours immobilier d'investisseur avec les biens que tu as pu acheter, louer ou revendre par le passé. Et surtout cette maison qui s'apparente, selon moi, plus un petit immeuble. Donc pour expliquer un peu aux auditeurs, on se trouve là sur la dalle du haut. On a à peu près 2 x 250 m² de dalle, grosso modo. Et c'est un terrain absolument, hyper compliqué au niveau technique. Il y a de la pente on se trouve actuellement en fait pleine vue mer, donc une superbe vue là. Bon, on n'a pas le coucher du soleil, il y a un peu de nuages. Et ce côté construction, auto-construction, toi tu t'es formé un peu par toi-même. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui. Et je pense que les auditeurs sont aussi friands de tous les petits trucs et astuces que tu pourras nous donner. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, ta formation et qu'est-ce qui t'a amené aussi à l'investissement immobilier ?
Alors écoute, j'ai bientôt 40 ans. Mon parcours, quelques expériences entrepreneuriales quand j'étais étudiant en métropole, donc il y a à peu près 15 ans à peu près. Je suis revenu en Nouvelle-Calédonie il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Je travaille en banque, je suis spécialisé dans l'immobilier. Et puis mon parcours rapidement, j'ai commencé avec une petite opération au Vallon d'Or dont tu as déjà parlé avec un ami qui était associé, Cédric Bérod, dans un autre podcast.
Ouais, tout à fait, ouais.
Voilà, et puis ensuite j'ai acheté un petit ensemble immobilier dans Nouméa que j'ai retapé, donc à visée patrimoniale. Je viens de vendre un appartement. Et ensuite, il y a eu ce troisième projet un peu plus conséquent de construction de notre résidence principale. Voilà.
Ok. Alors, le premier projet, c'était une construction de maison, mont d'or, avec une division de terrain.
Hein ? Oui, alors en fait, on faisait l'acquisition d'un beau foncier avec une belle vue mer sur les hauteurs, et donc là, qu'on achetait pas cher parce qu'il y avait déjà une habitation qui était en très mauvais état, et surtout on avait vu qu'on pourrait à terme diviser le foncier en deux avec un règlement de copro et une autorisation d'entrée chartière. Et l'idée effectivement c'était de rénover la première villa, donc on en a fait on est passé de F3 à F4, on a fait des ouvertures sur la mer, des enrangements, un deck, etc., et des prestations modernes. On a obtenu un permis de construire pour construire la seconde villa, et puis on s'est très vite rendu compte que financièrement c'était plus intéressant de vendre le terrain avec le permis de construire et l'autorisation d'entrée chartière. Donc je passe les détails qui ont déjà été évoqués par Cédric, mais c'était l'idée. Donc avec des amis donc là c'était en nom propre, et voilà, on avait chacun nos spécialités et puis beaucoup d'huile de coude déjà le week-end.
Ouais, il y avait pas mal de travaux.
En effet.
Et du coup, bah, ça, c'est des biens que vous avez revendus finalement.
Oui.
Et vous avez pu dégager une petite plus-value hein, de mémoire.
C'est ça. Alors, un des investisseurs avait amené le cash qui était nécessaire à obtenir le financement. Et nous, on avait apporté notre caution pour le crédit. On l'avait pris en crédit long terme parce que l'idée, c'était d'avoir un filet de sécurité au cas où on n'arrivait pas à revendre le bien au prix escompté rapidement. C'est ce qui s'est produit avec les événements de Saint-Louis. Donc, on a mis en location pour pas qu'il y ait de dégradation, que le jardin soit entretenu et qu'il soit un peu mis en valeur. Et quand le marché est remonté, on l'a revendu. Et alors, c'est moi qui tenais les comptes. C'était des investissements qui étaient faibles, mais on avait fait l'équivalent de 50% de rentabilité par an et par personne. Voilà. Donc, c'était intéressant.
Ah ouais. Et du coup, tu te projettes, c'était quand, quelques années plus tard ou un peu après, en fait, sur l'achat d'un ensemble immobilier avec 3 appartements?
Alors, c'était oui, c'était en parallèle. Et je recherchais, alors moi j'étais locataire, et donc je recherchais un ensemble immobilier où je donc avec des travaux, hein, parce que l'intérêt d'avoir des travaux, c'est qu'après ils sont déductibles des impôts et on les paye pas d'entrée de jeu, on paye pas de frais de mutation dessus. Donc en fait il y a un double intérêt financier, et c'est surtout là où on peut faire la différence soi-même en s'investissant et donc avoir un prix de revient plus faible, et ça me permet d'apprendre aussi. Donc j'ai cherché activement un ensemble immobilier. J'en ai trouvé un, je voulais absolument qu'il soit dans Nouméa, qu'il soit pas trop loin, parce que je comptais y travailler le maximum.
Donc là, on est à quelle époque à peu près? Si t'as une idée de la date
On doit être vers, je sais plus si c'est 2008 ou 2010.
Ouais, il y a une dizaine d'années. Quoi.
Voilà, dans ces eaux-là.
Okay.
Et donc, effectivement, donc, il y avait un studio, un F2 et un F3. Voilà, avec des surfaces correctes. J'ai négocié le prix pendant 8 mois. J'ai réussi à le faire baisser.
Alors, ça c'est intéressant. Raconte-nous, parce que on dit parfois en immobilier, bah, souvent, il faut pas être pressé, il faut attendre la bonne affaire. Hein. Quitte à visiter plein de biens et puis son heure arrive. Et toi, c'est un peu ce que tu as fait. Tu as fait plusieurs visites, tu as fait plusieurs demandes en fait.
Alors, j'ai été informé, bon, Nouméa est petit, par le bouche-oreille, qu'il y avait plusieurs acquéreurs potentiels. Je me suis rapproché de certains que je connaissais, et pour savoir quels étaient les côtés positifs et négatifs de ce bien. Ça m'aidait à me conforter dans mon idée et de maîtriser le risque. Donc, il y avait un premier point négatif, c'est qu'il n'y avait pas de division au niveau de la copropriété. Ça formait qu'un seul lot. Pour moi, c'était impensable d'acheter sans avoir cette division. Ça n'a pas été simple au niveau des notaires, mais un notaire a bien voulu s'en occuper. Donc, ça c'était en parallèle, mais ça m'a déjà permis de négocier le prix à la baisse et malgré tout d'obtenir la division aussi.
Okay. Du coup, cette division, ça te permet de vendre un des lots, c'est ça en fait, hein, c'est ça l'intérêt.
Tout à fait. Donc, c'était
pas le vendre d'un coup.
C'était pas l'objectif, mais ça donne de la valeur à l'ensemble et ça permettait après de séparer les compteurs d'eau, d'électricité, etc.
D'accord.
Donc, ça coûte pas très cher, mais c'est important à mes yeux.
Et là, tu vas voir le notaire directement ou tu as besoin d'une autorisation en mairie aussi ou...
Non, c'est juste au niveau de la copro. Donc, ça se passe déjà avec les copropriétaires.
Okay.
Donc, j'ai été me présenter, je leur ai expliqué que l'objectif, c'était pas de faire de la vente à la découpe, mais de continuer à louer les biens parce que c'était déjà le cas, mais de faire des travaux.
Okay.
Ils ont vu que j'étais pas un bandit, on a appris à se connaître, donc ils ont accepté. Effectivement, c'est moi qui ai trouvé le notaire. Et puis après, bon voilà, j'ai trouvé pas mal d'autres petits défauts du bien. Et puis effectivement, il n'y avait pas, par exemple, d'attestation de traitement antithermite. Je me souviens plus exactement, mais bref, très rapidement, on a réussi à tomber d'accord. Et à un moment, j'ai arrêté de négocier parce que je sentais que ça allait capoter. Et puis moi, ça me laissait de la marge en cas de mauvaise surprise.
Okay.
Parce que j'étais malgré tout un petit peu novice. Certaines personnes proches, mon père pour ne pas le citer, auraient pu m'aider et me conseiller, mais j'ai voulu le faire comme un grand et je ne l'ai pas sollicité. J'ai eu tort. Mais en même temps, ça m'a permis de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Donc, y a eu des mauvaises surprises par la suite. Donc, heureusement que j'avais négocié le prix.
Ouais, du coup, alors, elle était affichée à combien ce prix, ce bien, et tu l'as eu finalement 8 mois plus tard à combien ?
Alors,
voir un peu ce que tu as pu gagner du coup avec cette.
Ben écoute, il était affiché à 42 millions, ce qui était déjà pas mal hein, pour un studio, un F2, un F3.
Okay.
Et donc je l'ai eu à 34, 8 millions de moins. Voilà.
Ouais, donc pas mal quoi, c'est 1 million par mois.
C'était 1 million par mois.
Que t'as gagné, finalement.
Oui, mais bon, je pense que c'est le marché qui veut ça aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Les autres en face, les autres hackers potentiels avaient du mal à se décider.
Ouais, ouais.
Moi, j'ai convaincu aussi les vendeurs que je pourrais avoir un financement sans trop de problèmes et que j'avais entamé les démarches. Donc, ça les a rassurés. Et puis, surtout le fait d'être au contact régulièrement, de leur poser des questions, ils ont vu que j'étais vraiment intéressé. Et donc, ça pourrait aboutir. Voilà.
Ouais, ouais. Donc, voilà. Pour les auditeurs de Métropole, 1 million de francs CFP, c'est à peu près 8000 euros, quoi.
Voilà, ouais.
Grosso modo, ouais, pour qu'ils puissent voir un peu
dans ces eaux-là.
Et donc, tu deviens propriétaire de ce bien. Et donc, tu dis, tu découvres des mauvaises surprises ou des choses que tu n'avais pas anticipées en fait lors des visites.
Alors, le souci, c'est que les biens étaient déjà loués.
Ouais.
Alors, quand on visite des appartements qui sont déjà loués, c'est délicat de demander ses futurs locataires de se lever du canapé pour le déplacer et regarder ce qu'il y a derrière. Donc, je schématise, mais les appartements sont occupés, ils sont meublés, et donc on ne voit pas tout. On voit pas tout et il faut que les locataires soient présents pour visiter, etc. Donc c'est plus compliqué que de visiter des biens libres d'occupants. Voilà. Et ensuite il y avait une partie du terrain qui était libre de construction, hein, un jardin en contrebas, et qui était végétalisé, et à moins de tout débrosser, on voyait pas ce qui s'y trouvait.
Ouais,
et là, j'ai fait des erreurs de débutant, notamment en termes d'assainissement, c'est-à-dire que il y avait un système d'assainissement séparé, et j'aurais dû aller voir ce qu'il en était.
Okay. C'était voilà. Quoi ? C'est une fosse septique qui était raccordée à toutes les maisons, en fait ?
Alors, l'immeuble disposait d'une fosse commune qui concernait un de mes appartements, le F1, et les deux autres logements avaient un système qui leur était dédié.
Okay.
Voilà. Et donc le F3 et le F2, donc avec une fosse et puis un filtre. Voilà. Et il se trouve que très vite, en parallèle, j'ai eu des soucis avec un locataire qui me payait pas.
Okay.
Qui me payait pas, et puis je voyais qu'il avait des petits soucis, voire des gros soucis dans sa vie personnelle, et que ça passait pas trop bien avec le voisinage, à force d'être présent, de discuter avec les uns et les autres.
Donc non seulement t'avais des gros travaux en plus, hein, je dirais, que t'avais pas prévu.
Alors
tu pourras nous raconter un peu aussi.
Bah, je savais pas
et
encore.
Et après, t'avais un des locataires qui payait pas, ça non plus, tu le savais pas.
Et non, je le savais pas. Et en fait,
quand t'as acheté, l'ancien proprio t'avait pas dit ou t'as peut-être pas demandé non plus.
Ils se connaissaient bien tous les deux et il m'a pas tout dit, on va dire. Voilà, et je savais que ça allait pas être facile, mais il m'a pas tout dit. Et du coup, on se voyait, il me payait une partie, il me faisait attendre. Jusqu'à un moment où j'ai perdu patience.
Okay.
Alors tout le monde m'a dit attention, et d'ailleurs je le conseille à personne, il faut un certain formalisme, etc.
Ouais. Alors moi je connaissais la méthode Corse, qui consiste, je sais pas si t'en avais parlé la dernière fois, ce qui consiste en fait à changer, et il y en a plein qui l'ont déjà appliqué entre nous, hein. J'ai déjà entendu des histoires, hein. Pas des gens que je connais personnellement, où tu changes la serrure en fait quand le locataire est pas là, tout simplement, hein. Et pour t'épargner 2 ans et demi de procédure, si on veut dire. Et par contre, je connaissais pas la méthode calédonienne.
Je vais pas rentrer dans, les détails, mais je pense qu'il y a un moment où pour parler crûment, il m'a pris pour un con. Et il se trouve que j'avais des outils à portée de main, et il a vite compris que je rigolais pas, et je lui ai donné 2 jours pour partir. Et puis j'estimais être dans mon bon droit. Mais j'ai pas eu recours à la force, mais je lui ai fait comprendre que c'était dans son intérêt de vider rapidement.
Donc il l'a fait de son propre fait, finalement.
Alors, il l'a fait très vite. Il a laissé quelques affaires. Je les ai mis sur le bord de la route. Je l'ai prévenu. Et puis voilà, c'est parti à la benne. Et donc, voilà, quand cet appartement a été libéré, donc j'ai pu débrousser, j'ai pu me rendre compte de ce qui allait pas. Et le gros problème, c'était l'assainissement. La fosse avait été mise dans le mauvais sens par rapport à la pente, sans soutènement, les raccords étaient cassés. Enfin, pour faire court, tout ça, ça s'est coulé dans la nature sans aucun traitement. Donc,
Pas terrible déjà aussi, parce que c'était un contrôle, ça peut arriver.
Tout à fait.
Quand tu divises, par exemple, si la mairie vient voir, ou je sais pas.
Bah, par rapport aux voisins, et puis même, c'était inconcevable pour moi de pas avoir un système d'assainissement propre en bonne et due forme. Donc, et le souci, c'est que ça voulait dire travaux. Et du coup, double peine, travaux à financer et puis pas de loyer pendant ce temps-là. Donc là, pour le coup, j'ai demandé à mon père, qui est un ancien des travaux publics et avec le que j'ai aidé à faire notre maison aussi à l'époque, donc
okay.
qui est très consciencieux et que je respecte beaucoup. Donc on a réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait faire. Et puis là, j'ai pris une pelle, une pioche, et puis j'ai commencé à faire des mouvements de terre et à faire du béton à la brouette. Des amis sont venus nous aider pour acheminer les matériaux, ouais. parce que c'était pas forcément accessible. Et puis, pour vous donner une idée, on a passé une fosse de 3000 litres avec des cordes et des palans en passant par les voisins d'en face, parce qu'on était dans un fond de parcelle et on pouvait pas venir avec des engins de levage.
Okay.
Donc ça a été assez épique, et puis bon, après il y a eu le plafond de la chambre qui s'est effondré quand j'ai mis juste effleuré. Je me suis rendu compte que les cloisons placo étaient pas faites avec des armatures en métal mais avec du bois de récupération, qu'il y avait des soucis de plomberie, d'électricité, et j'en passe, voilà.
Ouais, ok, donc en fait tu t'es vraiment tout pris à refaire, quoi. Et ouais, j'imagine, du coup, toi t'avais fait un crédit faire cette acquisition.
Oui, mais pas pour les travaux. Ouais.
Et du coup, comment t'as géré ce surplus ? J'imagine que t'as pas fait faire parce que ça aurait coûté trop cher.
Alors, j'avais une connaissance qui était un patenté, en fait, hein, donc un artisan ouais. qui avait des connaissances dans plusieurs domaines et qui était correct dans ses tarifs, donc qui m'a aidé néanmoins, en plus de ce que j'ai pu faire avec mes amis. Mais l'idée, voilà, c'était d'aller vite, donc je m'y retrouvais souvent le matin, le midi, le soir, le week-end, vraiment à temps plein. Et puis l'idée aussi, c'était c'est un peu ma façon de voir les choses. Souvent, quand il y a un souci qui arrive,
ouais.
c'est un peu comme au judo. Tu me tires, je te pousse, et je te pousse, tu me tires. Comprendra qui pourra. Mais l'idée, c'était d'améliorer le bien. Donc, par exemple, j'ai fait tomber la cloison entre la chambre et le salon. J'ai mis des portes coulissantes. J'ai rajouté des rangements là où il n'y en avait pas. J'ai refait toute la douche.
Ouais, après, c'est la rénovation classique, je dirais, que t'as vraiment amélioré le bien, en fait. Hein.
On a amélioré le bien. J'ai refait les escaliers. J'ai essayé de prendre des matériaux sympas. J'ai anticipé sur la pose d'un deck, alors que c'est déjà du terrain avec de la pente. Donc je me suis retrouvé avec un ami qui se reconnaîtra s'il nous écoute. On était dans des trous où on pouvait à peine bouger parce qu'on est descendu à presque 2 mètres de fond pour fonder les fondations du deck. Enfin, okay. Bref, voilà, il y en a eu beaucoup. J'ai refait aussi tout le sol du F3, les peintures, partie de la salle de bain, et puis j'ai refait tout le studio aussi, parce que pareil, j'avais un locataire, ça me fait rire avec du recul, mais sur le moment c'était pas le cas, qui m'avait inspiré confiance parce qu'il était d'un certain âge, plus de 70 ans, et en fait tout le monde me disait qu'il y avait des drôles d'odeurs qui émanaient de chez lui, et je pense qu'il était un petit peu cultivateur et il faisait du trafic, donc pareil, il a fallu le virer et j'ai retrouvé l'appartement dans un état pitoyable, avec des nuisibles, donc il a fallu jeter beaucoup de choses, toute la cuisine, casser, refaire. Donc
t'en as vu de toutes les couleurs, si je puis dire.
C'était prenant.
Ouais, ok.
C'était prenant, voilà.
Et en fait, ce qui t'a caractérise, en fait, c'est que toi, t'as géré vraiment à bras-le-corps tous tes travaux, et ça t'a pas effrayé, ça t'a pas découragé, en fait.
En fait, c'était...
Parce que moi, tu me dis ça, je panique complet. Bon, bien sûr, après, l'adrénaline fait que tu vas y aller, quoi.
Ouais, il faut pas oublier qu'en Nouvelle-Calédonie, quand même, c'est une terre de pionniers, hein, et on a beaucoup de nos aînés ou qui se sont installés et qui ont tout fait à partir de rien.
Ouais.
Donc c'est pas grand chose par rapport à eux. Et puis quand on a un crédit sur le dos, et puis j'étais quand même encore jeune, j'avais à peine la trentaine, donc l'énergie. Je savais que si besoin, j'étais pas tout seul parce que les amis, ça compte dans ces cas-là. Même si on n'ose pas souvent leur demander de l'aide, et puis c'était une nécessité. Il fallait le faire. Quand on a un crédit qui tombe avec des échéances, le temps compte. Donc il faut pas s'apitoyer sur son sort, pas tergiverser. Et puis il faut mettre les mains dans le cambouis et puis avancer, faire face. En fait.
Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, t'as pu, du coup, avec tes surfonds propres, faire ces travaux, en fait, petit à petit, hein, t'as réussi à...
Alors, j'ai autofinancé beaucoup de choses. Et puis, vu que j'avais acheté l'ensemble immobilier à un prix quand même très, très compétitif, ça faisait partie de l'analyse du risque, hein, quand je me suis jeté à l'eau.
Ouais.
J'avais quand même... j'étais pas prêt à la... J'avais pas besoin de rajouter des fonds pour payer le crédit, donc ça me permettait d'autofinancer les travaux.
Ouais, sur voilà. Tes économies, et même à petit à petit, quoi, j'imagine. Ouais.
Voilà, et puis j'étais, j'occupais un appartement dont le loyer était quand même modéré. Je suis pas très dépensier par période, mais ouais. Quand je peux pas, je fais vraiment attention. J'ai jamais eu de crédit pour des véhicules, par exemple.
Ok.
J'ai jamais acheté de voiture de ma vie. J'ai toujours été en auto, que je payais cash, jamais de crédit conso pour aller en voyage, etc. Donc chacun ses priorités. Les miennes, c'était.
T'avais déjà bien cette mentalité d'entrepreneur, je dirais, investisseur.
La motivation, c'était d'une part, un peu comme tout le monde, l'inconnu et l'inquiétude sur les retraites qu'on pourra avoir à terme. Hein. On voit comment ça se passe à l'heure actuelle, donc je voulais me constituer ma propre retraite. Et surtout, je savais très bien, de par ma formation, mais d'expérience, on regarde autour de soi, que plus on commence jeune, et mieux c'est. Et l'idée, c'est de faire boule de neige. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un crédit est amorti, on peut partir sur autre chose, même s'il est partiellement amorti. Donc, c'était un peu ce qui me motivait aussi.
D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un peu la rentabilité que tu avais juste sur en louant le bien, une fois que tu avais, je ne sais pas si tu t'en souviens, peut-être pas.
Non,
les locataires, enfin les loyers payaient tes traites.
Oui, les loyers payaient les traites. Après, ça m'arrivait ponctuellement d'injecter du compte courant d'associé. Pour les travaux, ça c'est sûr. Des fois, quand il y avait des grosses dépenses, par exemple l'assurance crédit ou l'assurance propriétaire non occupant, c'était annuel, donc quand ça tombe, il n'y a pas forcément la trésorerie sur le compte. Donc j'injectais pas mal quand même pour les travaux.
D'accord.
Après, la rentabilité, oui, donner les chiffres, je pense qu'on devait être autour de 8-10%, quoi. Dans ces eaux-là.
Ouais, ce qui est bien quand même, hein, pour Nouméa.
Les niveaux de loyer étaient un peu plus intéressants à l'époque qu'ils pouvaient l'être aujourd'hui.
Ouais.
Voilà. Après, l'intérêt d'avoir plusieurs biens, c'est que quand il y en a un qui est libre, hein, qui est vacant, le temps de retrouver un locataire, les autres produisent quand même du loyer aussi. Donc, ça lisse un petit peu le turnover des locataires.
Ouais. Voilà. Ouais, complètement. Et du coup, ce bien, tu l'avais acheté avec une structure de société civile immobilière,
oui.
En SCI.
Oui.
Et est-ce que tu peux nous en parler un peu, pourquoi tu as opté pour une SCI et pas en nom propre, et l'avantage que tu as pu en tirer aussi par la suite?
Alors, je ne savais pas trop où j'allais. C'est pas toujours facile de revendre des SCI, mais il fut un temps, je sais plus si c'est toujours le cas, mais il y avait un intérêt parce que les frais de mutation étaient payés sur l'actif passif.
Tu peux nous expliquer un peu, c'est-à-dire les frais de mutation, c'est tout ce qui est frais de notaire ou taxes liées aux frais de notaire.
Voilà, c'est ça. Donc ça pouvait être un argument de vente supplémentaire parce que ça venait...
Et donc, tu veux dire que tu les déduis des impôts finalement, en quelque sorte. cartes?
Non.
Carrément, tu les payes pas du tout.
Tout dépend. Tout dépend quand on est à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Okay.
Moi, j'étais parti à l'impôt sur le revenu pour commencer, parce que je savais qu'on avait la possibilité durant un an d'opter, si on le souhaitait, pour l'impôt sur les sociétés. Donc, j'ai commencé par l'IR et je me suis très vite rendu compte que ça allait pas être possible pour moi en termes de trésorerie, tout simplement parce que j'aurais pas suffisamment d'argent pour payer les impôts.
Ah, okay.
Parce que les travaux à faire, ils étaient déductibles, mais dans une certaine limite.
Et ouais.
Ce qui n'est pas le cas à l'impôt sur les sociétés. Donc, l'impôt sur les sociétés a des inconvénients. C'est l'imposition sur la plus-value en cas de revente. Mais moi, j'étais pas dans cette optique de revente et de toute façon, j'avais pas le choix. Et le gros intérêt, c'est qu'on peut déduire les frais de mutation sur le premier exercice, one shot.
Okay.
Donc là, en l'occurrence, j'en avais pour 4 millions. Donc ça crée du déficit fiscal tout de suite, donc ce qui veut dire que pendant un petit bout de temps, on n'a pas à payer d'impôts du tout.
Okay.
Et que tous les travaux sont déductibles et qu'on peut pratiquer réellement un amortissement sur les travaux par rapport à leur durée de vie. Et vu que j'en ai réalisé beaucoup, ça venait en déduction du résultat, et donc voilà, donc il arrivera un moment où je paierai des impôts. Ça me dérangera pas, c'est normal, mais en tout cas, parce que la situation le permettra. Mais en tout cas, au début, ouais. J'étais plutôt pas mal à l'IS, quoi.
Ok. Et donc, pour les auditeurs un peu débutants, quand tu dis tes travaux s'amortissent, ou tu fais des amortissements sur certaines dépenses,
voilà, ouais.
C'est que tu peux les imputer à des années. Un nombre d'années, en fait, que tu choisis à l'avance ou...
Alors, c'est encadré, mais... Alors, le terrain, par exemple, la quote-part du terrain ne s'amortit pas. Les constructions, par exemple, on peut les amortir... Sans même parler de travaux, les constructions, on peut les amortir sur 20 ans. Donc, par contre, il faut être rigoureux. Le mieux, c'est d'avoir un comptable. Moi, je me suis fait aider par un ami. Après, je faisais la comptabilité moi-même, mais au bout d'un certain temps, ça devient compliqué. Mais mettons, on prend la valeur du bien. Donc, un bien de 100 millions, mettons, si vous l'amortissez sur 20 ans, ben ça va être 5 millions de déductions sur votre résultat. Ça vient en diminution du résultat, en fait, tous les ans. Donc, qui dit moins de résultats, dit moins d'imposition, ou pas du tout, ou un résultat négatif. Sachant qu'on peut avoir un report d'un résultat négatif. Donc, si une année, on fait un résultat négatif, et l'année suivante également, la troisième année, si on fait du résultat, on bénéficiera des reports négatifs des années précédentes. Donc, l'idée, c'est quand même de faire du résultat. Mais... dans ce type d'opération, quand on débute, c'est pas toujours le cas. Donc ce fonctionnement m'a bien aidé. J'aurais pas pu réussir sans cette forme.
Ouais. Ça ressemble un peu au déficit foncier. Ce qu'on appelle déficit foncier quand tu es en nom propre, simplement quand tu fais faire des travaux et que tu le reportes sur plusieurs années, en fait.
C'est l'idée.
Ouais, c'est ça. Sauf que c'est pas que des travaux que tu déduis. Du coup, t'as toutes tes charges en SCI. Donc, les frais de notaire, déjà, c'est un sacré avantage. Enfin, moi, je trouve.
C'est énorme. C'est 10% du prix d'achat, donc c'est énorme.
Ouais.
Même plus, un peu plus. 11,5 en Calédonie, ils sont assez élevés. Et effectivement, ça peut être...
Bien sûr, les intérêts d'emprunt. Ça, c'est comme...
Alors, les intérêts d'emprunt sans limitation de montant. Donc, c'est l'intégralité des intérêts d'emprunt. Mais c'est également les frais bancaires, c'est les assurances... c'est des achats de marchandises pour les travaux, etc., etc. Il y a d'autres avantages, je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, après, par contre, il faut être rigoureux, avoir des petites chemises, conserver les factures, bien noter comment les paiements ont été faits, que les factures soient bien au nom de la SCI, qu'il y ait les adresses, etc., etc. Ça demande une certaine rigueur, mais on s'y retrouve.
Alors, sur ce bien... Est-ce que tu en as vendu un dernièrement? Tu m'avais dit que tu t'es séparé d'un des biens, apparemment.
Oui. Alors, c'était pas prévu. C'était pas prévu, mais il se trouve que quand je me suis lancé dans la construction de la maison, j'avais prévu un autofinancement, mais il y a toujours des dépassements et il fallait aller vite, terminer certaines choses et il fallait boucler le budget, donc il fallait vendre un des appartements. Et vu que j'avais amorti, etc. Bref, la conjonction des planètes était favorable. par rapport à la plus-value, ce que je pouvais en faire. En fait, j'avais accumulé une certaine somme en compte courant associé, et vendre ce bien me permettait, sans me verser de salaire ou de dividende, uniquement en ressortant mon compte courant associé, de disposer de récupérer toute la trésorerie que j'avais investie pendant ces 10 années. Et donc, je regrette pas, et les personnes qui en ont fait l'acquisition sont très contentes, et on est devenus amis, donc voilà, ça s'est bien passé.
Ok. Et du coup, toi, ça t'a permis aussi de rebondir sur d'autres travaux, tu disais, et puis aussi d'autres projets.
Alors, on va peut-être voir. Pas forcément rebondir, parce que j'ai déjà plus on a d'argent finalement. J'ai jamais eu entre mes mains une somme d'argent aussi importante autre que par du crédit bancaire sur mon compte.
Ouais.
C'est parti en quelques mois. Par rapport aux travaux et aux dépassements qu'on a pu avoir ici, parce qu'un projet sur papier c'est une chose, mais après on est confronté à la réalité du terrain, les possibilités techniques, les disponibilités des uns et des autres, et le projet évolue et le budget aussi.
Donc là tu parles de la maison là.
Voilà, exactement.
Ouais, ok.
Donc non, pour l'instant, malheureusement, j'ai d'autres projets dans les cartons, en gestation, mais j'ai pas le cash nécessaire. Je vais déjà m'atteler à finir le mieux possible ici.
Ouais. Donc on va en parler. Hein. En plus, tu me disais aussi le côté travaux.
Oui, par rapport, j'ai repensé par rapport à cette expérience avec ces appartements. Sachant que j'ai fait l'acquisition d'un autre studio en parallèle, et crédit bancaire, où j'ai dû faire des travaux aussi.
Okay.
Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que, mais tout le monde le dira, il faut pas aller trop vite non plus dans les travaux de rénovation. Il faut faire ce qui est essentiel pour que l'appartement puisse être habité convenablement, être propre, etc. Ça va de soi. Il y a des travaux qu'il faut des fois différer, et c'est la voie de la sagesse. En fait, il faut conserver toujours un matelas de sécurité. Donc on en a parlé déjà, moi j'ai eu une fuite sous dalle par exemple à un moment, là il faut pouvoir réagir vite,
ouais.
Faire les recherches, faire des travaux, j'ai des chauffe-eau qu'il a fallu changer, enfin bref, il peut y avoir des petits coups durs et qui impliquent d'avoir de l'autofinancement et de réagir vite. Donc il faut pas tout dépenser, toute sa trésorerie, et toujours en garder suffisamment. 8 000, 15 000 euros pour parler en euros, ça permet d'être serein, et c'est important, et surtout de pas se planter, parce que si jamais on a des travaux urgents à faire et qu'on peut pas les faire, ça veut dire un appartement qui est pas loué, et puis après c'est le début de la fin, parce qu'on pourra pas faire d'autres travaux,
c'est la spirale infernale,
on peut plus payer le crédit, etc. Donc attention à ce point là bien prioriser l'ordre des travaux et toujours garder un petit matelas.
Ouais, en cas d'urgence, ouais. C'est vrai qu'on le dit jamais assez, et surtout quand on est on n'a jamais investi, on se lance et tout ça, c'est toujours bien, parce que forcément on aura des surprises un jour ou l'autre, hein, ça fait partie du chemin. Et je dirais c'est pas forcément faut pas le voir comme une difficulté insurmontable, ça fait partie des choses, et à partir du moment où t'es bien préparé, hein, comme tu dis, pas de soucis, quoi.
Et puis il y a un autre point aussi, c'est que si le coup dur est vraiment vraiment très dur et qu'il faut avoir recours au crédit bancaire, ça permet de constituer un autofinancement et d'être finançable plus facilement. Donc il y a aussi cet aspect là qui est important.
Du coup, on va pouvoir un peu parler maintenant à ce deuxième projet d'investissement. Donc t'étais bien en location, t'avais terminé tous tes travaux. Donc là, ton projet, du coup, ça devient ta résidence principale.
Oui, en fait, avec ma...
Et ça naît de là, finalement, de...
Avec ma compagne, oui, on était locataire, et puis on souhaitait ne plus l'être. Donc on s'est mis en recherche, pas forcément d'un terrain pour construire, mais de notre futur appartement ou notre future villa. Moi j'avais trouvé une villa en bord de mer aussi, mais dans un quartier il y a pas mal de pollution atmosphérique, on va dire, un environnement qui était peut-être un peu moins plaisant, et ça lui a pas du tout plu, elle me l'a fait savoir clairement. Et donc j'ai compris très vite, je me suis mis en recherche de tout à fait autre chose, et j'ai trouvé donc ce foncier qui était inespéré. J'y ai pas cru quand j'ai appelé les vendeurs, parce que pour moi, il n'y avait pas de terrain à vendre à cet endroit-là. Et en fait, c'était pas un détachement de parcelle, mais tout comme à l'époque, c'était un très grand terrain avec une villa sur une partie du terrain. D'accord. Et puis toute la partie base du terrain n'était pas mise en valeur, n'était pas occupée. C'était, elle était pleine de faux mimosa, qui sont des nuisibles ici, bref, qui prolifèrent. Et puis,
voilà. C'était la brousse, quoi, finalement, le terrain.
C'était la brousse, en effet. Donc voilà. Et puis c'était un super terrain, un terrain de rêve, quoi, quelque part. Voilà, donc.
Ouais. Donc en fait, on est dans un secteur où t'as pleine vue mer, donc ça, c'est vraiment un côté sympa. Et t'as un terrain à Nouméa, finalement, t'es bien placé, quoi. T'es bien placé.
Oui, on est proche de ce qu'on appelle.
Nouméa, c'est quand même pas mal construit aujourd'hui pour trouver un terrain. Et après, à quel prix? C'est ça aussi le.
Voilà, effectivement, donc dans ces quartiers, le prix à l'art est très très élevé. On dit que de toute façon, le prix de l'immobilier à Nouméa se rapproche de celui de Nice, pour donner un petit peu une idée.
Ouais.
C'est vrai que là, on est dans un quartier qui est proche un peu de tous les grands hôtels, la zone touristique, où il y a un petit peu les restaurants, les bars, les promenades en bord de mer, etc. Pas mal d'écoles, d'activités sportives, proche de notre travail aussi,
et puis
de la famille, voilà.
Ouais.
Donc c'était parfait, c'était parfait. Et puis oui, on a une 30 mètres de terrain qui donne sur la mer avec une vue imprenable et des îlots au loin, donc c'est sympa de voir les dauphins de temps en temps.
Ouais, c'est ça, ouais. Et donc ce terrain qui est en pente, en fait, t'as dû, en fait, donc tu te dis, toi, tout de suite, c'est possible, toi, tout de suite, tu t'imagines un projet qui est possible, malgré la pente, etc.
Alors, tout est possible, en construction, hein, mais après, c'est une histoire de budget. Sachant, ouais, de toute façon, que Nouméa, hein, c'est beaucoup de collines. Il y a des terrains plats, bien évidemment, mais il y a beaucoup de collines et donc beaucoup de terrains pentus. Après, ce qui compte, c'est deux choses, à mes yeux en tout cas. C'est la qualité du sol, donc savoir est-ce qu'on va devoir faire des fondations profondes ou pas. Ce qui implique d'une part de creuser et d'autre part de couler beaucoup de béton et de mettre en place beaucoup de ferraillage. Ça c'est le premier point. Et après, ce qui était aussi important à mes yeux, c'est les déblais remblais. Déblais remblais, c'est-à-dire les mouvements de matériaux dans un sens ou dans l'autre. Et est-ce qu'il fallait amener du matériau ou en enlever aussi, parce que ça coûte très vite très cher. Donc on a réussi à trouver une implantation sur le terrain qui fasse que ça soit à peu près équilibré. Donc c'est un ami qui se reconnaîtra aussi s'il nous écoute, qui est de la partie et qui avait les logiciels qui allaient bien pour modéliser le terrain, etc. Et donc on a réussi à positionner la villa pour éviter ça au maximum. Et puis après, il y avait la qualité du sol. Donc là, encore une fois, mon père a bien voulu se rendre rapidement sur le terrain. Et il faut savoir que dans le coin, à droite, à gauche, le sol n'est pas très bon. Mais ici, on est sur une poche de très bon sol. Il m'avait dit, tu verras, le dur est à 60 cm. Et quand on a fait venir le bureau d'études géotechniques, ils ont confirmé que le dur était à 60 cm.
Ok.
Donc c'était parfait. Voilà.
Ouais, excellent, excellent. Et donc, ouais, étude de sol, étude au niveau de la... Bah, si c'est friable ou pas, j'imagine.
C'est ça, voilà.
Et là, pour la petite histoire, hein, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, waouh, entre tout ce que tu as fait comme travaux ton mindset, vraiment, un mindset d'entrepreneur. Donc, si tu peux nous raconter quand tu as visité le terrain, là, tu as pu passer l'après-midi à défricher.
Ouais, c'était assez marrant, c'est un bon souvenir. Je suis parti. Ouais. Je suis parti au lever du jour avec un sabre coupe-coupe, comme l'appellent certains, dans mon sac à dos sur la moto. Et puis, je suis venu avec pour objectif de voir la topographie exacte du terrain qui était cachée par cette végétation.
Et, ouais.
Et puis, j'avais peur que ça pose problème après au topographe aussi. Oui, leur faciliter le travail. Donc, j'ai passé quasiment toute la journée à tout mettre à plat. Et là, on a découvert le terrain, ses courbes, les endroits où c'était plus ou moins pentu, etc. C'était une étape indispensable et voilà, sportive, mais sympa.
Ouais, c'est pour ça que je t'appelle l'Indiana Jones, investisseur de l'immobilier, parce que tu fais vraiment tout par toi-même et t'hésites pas vraiment à te lancer, quoi,
J'étais
impatient. T'as pas peur de l'aventure, on va dire.
Oui, bon, je risquais pas de tomber sur un tigre ou des serpents ici.
Ouais, chez nous, c'est une façon de parler.
J'avais une réelle motivation, c'était d'aller vite. Et plus à quel stade de la négociation on en était avec les vendeurs du terrain, mais c'était aussi un message, je pense, que inconsciemment je leur envoyais par rapport à ma motivation et le fait que
t'étais là, t'étais motivé, et puis tu leur montrais que ouais, moi, tel critère, c'est bon pour moi. Et du coup, comment ça se passe en fait un projet de construction de maison? Parce que moi, perso, j'ai jamais construit de maison. Je me mets à la place de quelqu'un qui se dit tiens, je vais acheter un terrain, je vais construire ma maison. Bon, alors là, on est dans un cas très particulier. On n'a pas des terrains aussi compliqués forcément. Mais du coup, justement, c'est bien que tu nous expliques un peu comment ça se passe les fondations. Donc, tu nous as parlé de ces parties de terrassement qui étaient un peu obligatoires pour pouvoir bâtir. Les gens qui sont intégrés au projet de la construction, tu vas avoir tous les corps de métier liés à la construction, hein, j'imagine, et des entreprises de bâtiment, des maçons, parce qu'il faut couler du béton, il faut monter des murs, tu as toute la partie toiture.
Tous les corps d'État qui rentrent dans une construction, effectivement. Mais bon, déjà, pour en revenir, le commencement, hein, c'est de se renseigner. Alors, en Calédonie, hein, ça s'appelle le plan d'urbanisme directeur, le PUD.
Ouais.
Et grosso modo, c'est les droits à bâtir sur le terrain. Ça détermine un cadre en disant, voilà, on peut être à telle distance des limites de prospect, c'est-à-dire des limites de terrain, on peut monter à telle hauteur, tant d'étages, ça peut être définir les couleurs de toiture, après il peut y avoir des servitudes de vue, en l'occurrence de copropriété, on devait avoir la toiture qui devait être pas plus, 20 cm d'écart par rapport au plus haut point du mur totalement de nos voisins, enfin bref, déjà il faut intégrer les contraintes juridiques, légales du terrain pour se projeter.
Donc
ça c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième et le troisième, ça peut aller de pair, c'est de faire un relevé topographique précis, si on n'en a pas déjà un, et en parallèle donc de faire cette fameuse étude de sol, une fois qu'on sait à peu près où vont être les fondations, parce que les sondages sont faits à cet endroit-là, et ça va impacter après le budget. Et ensuite seulement vient la conception du projet, c'est-à-dire le dessin.
D'accord.
Donc il faut savoir qu'à partir d'une certaine taille, le projet doit être déposé en mairie avec la signature d'un architecte, mais rien n'empêche de faire soi-même son dessin, et après lui, en ayant intégré des règles, par exemple par rapport à la surface de certaines pièces, il faut qu'il y ait absolument telle surface de baie vitrée, etc. Enfin bref, je rentre pas dans le détail, mais puis surtout faire un projet un petit peu à sa main, avec se projeter, savoir comment on aimerait y vivre. Donc moi c'était assez marrant, j'avais toujours un maître avec moi, et puis j'ai mesuré plein de choses dans mon ancien appartement et dans les communs, la hauteur des marches d'escalier, la taille de notre chambre, la taille du salon, pour essayer de se projeter. Et puis voilà, moi j'avais un double objectif, c'était que toutes les pièces, qu'un maximum de pièces aient vu mer, et en même temps on est exposé au vent régnant, donc que toute la partie extérieure, piscine, etc., soit au maximum protégée du vent, tout en ayant vu mer à travers le salon, en l'occurrence. Je voulais de la hauteur sous plafond, je voulais pas mal de petites choses que j'ai réussi à intégrer intégrer au projet. Voilà.
Donc avec ta propre expérience, ta propre idée de l'espace, finalement, avec les mesures que tu prenais, tu as réussi à te projeter, et avec l'idée que tu en avais, finalement, alors il y a beaucoup de travail sur les vues, sur le fait que l'appartement soit traversant, sur de long, large et en travers, je dirais, un peu dans tous les sens. Hein, il y a vraiment un super travail là. Faudrait presque faire un film, quoi.
Quand même pas,
podcast. Donc, mais c'est important, pour dire ouais. Simplement, t'as fait beaucoup de travail là-dessus. Du coup, c'est toi qui as imaginé ça et t'as fait quand même appel à un architecte en parallèle, ou t'as fait les plans toi-même?
Non, après, l'architecte a invalidé le fait que ça s'intègre bien dans le réglementaire. Mais voilà, bon, après, ça n'a pas été tout à... Ça n'a pas été si simple que ça, parce qu'on est dans un endroit où il y a pas mal de monde qui passe, etc. Donc la mairie avait des exigences en termes d'esthétique. Donc l'archi, qui est un super archi d'ailleurs, qui travaillait avec les vendeurs du terrain, qui sont des marchands de biens, donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. On avait un bon relationnel. Donc il a ajouté sa patte en mettant des résis, par exemple, en façade avant.
Okay.
Par contre, après... on a dû s'adapter avec les contraintes techniques, encore une fois, avec le bureau d'études. Donc, c'est pas exactement ce qu'il, lui, voyait en termes d'esthétique, mais c'est plutôt sympa. Puis après, il y a tout le côté végétalisation qui joue pour beaucoup. Et ça, malheureusement, j'avais sous-estimé. On a toujours tendance à sous-estimer les aménagements extérieurs.
Ouais.
Surtout que nous, on a beaucoup d'escaliers.
Tu veux dire sur le plan financier?
Oui, ouais. Ben, financier, puis même sur le rendu final après.
Ouais,
donc il y a eu des modifications, et c'est vrai que c'est très important dans un projet, et ça joue pour beaucoup. Donc voilà, les premières parties, c'était ça. Et après, vraiment, on rentre dans la phase du... Après, il faut déterminer un budget pour aller vers un financement. Donc ça veut
dire... Donc là, à ce moment-là, tu as les autorisations pour le permis de construire ou pas encore?
Je me souviens plus exactement. Mais
parce que tu as quand même un projet, enfin j'imagine, maintenant ils te font des plans... Bon, t'as un plan, pas forcément 3D en rendu, mais t'as forcément des plans en 3D sur papier, quoi.
Alors oui, on avait les plans. Alors après,
sur l'emprise au sol, sur,
ouais. Sur le positionnement de la villa, les hauteurs, les façades, les ouvertures, la circulation à l'intérieur, on avait tout ça. Alors il y a toujours eu, bon, à cette époque, je dormais quasiment tous les jours que 3 heures par nuit.
Ouais, okay.
Soit je me couchais à 3 heures du mat, soit je me réveillais à 3 heures du mat pour bosser sur les plans, parce que j'avais toujours un papier, un crayon et une petite lampe LED sur ma table de chevet. Et
tu te réveillais, t'avais une nouvelle idée en fait, et tu l'as notée tout de suite, c'est ça?
Ouais. Et en fait, c'est papier crayon, c'est pas mal. Finalement, c'est pas mal. Après, il faut éviter de refaire faire les plans trop souvent parce que ça coûte cher.
Ouais.
Mais on peut bien s'en sortir comme ça. Mais après, l'objectif, c'est de chiffrer. Donc, pour chiffrer, c'est bureau d'études parce qu'il faut dimensionner les ouvrages béton. La charpente, etc. Déjà pour commencer le béton. Et ça, c'était une belle étape aussi. Je suis tombé sur un super bureau d'études, on s'est bien entendu.
Donc ça, c'est un bureau d'études technique spécialisé dans le bâtiment.
Exactement, fait. Voilà. Parce que les plans, c'est une chose. Mais après, il faut calculer les portées, il faut positionner les poteaux. Donc ça a été les poutres, les épaisseurs de dalles.
Ouais, parce que là, je le rappelle, je l'avais dit, on est donc sur ta structure là. Actuellement, donc là, bah, c'est le gros œuvre est quasiment terminé. Hein.
Ah, il est fini, oui.
Et on a deux fois 250 mètres carrés en fait, ouais. sur deux dalles. Donc là, on est au niveau du dessus.
Ouais.
Et le même à peu près qui est en dessous. Hein.
Oui,
tout accessible via un escalier, puisqu'on a un gros dévers hein, au niveau de la pente, pour que les gens se rendent compte. Je sais pas, on a la pente moyenne du terrain, t'as une idée?
Je sais plus, 20-25%. Honnêtement, ouais, je sais plus, mais
c'est pas mal. Hein.
On doit avoir peut-être 8 mètres de haut en bas, ouais, quelque chose comme ça.
Donc un bel escalier qui donne accès aux deux parties.
En bas, ouais, on a nos garages. Ouais.
Et donc, ça fait, c'est l'équivalent d'un petit immeuble, hein, je disais, en fait, hein, ce que t'as fait, d'où le bureau d'études techniques aussi, qui est nécessaire pour calculer.
Il est nécessaire de toute façon. Mis à part si on travaille avec un constructeur de ce qu'on peut appeler un pavillonneur de ville individuelle,
ouais.
Il va toujours travailler avec les mêmes plans et il aura fait une fois, il peut le réutiliser.
D'accord.
À partir du moment où on part sur quelque chose qui n'a jamais été fait, d'original, puis après, il faut prendre en compte le sol aussi, l'exposition, les vents, mais il faut passer par un bureau d'études et si possible qui adhère au projet et qui sait se rendre disponible, ce qui était le cas, et dit je te salue.
Ouais, il te reconnaîtra. Et donc ce projet avance, arrive le moment où tu dois toi trouver quelqu'un physiquement qui doit couler ce béton, je dirais. Enfin, en gros, c'est une entreprise ou parce que là, c'est pas le maçon du coin qui, j'imagine, qui t'a monté la bâtisse.
Moi, et ça aurait pu. Société. Ça aurait pu. Après, l'étape intermédiaire, c'est d'obtenir le financement avant toute chose. Donc, il faut chiffrer.
Ouais, effectivement. Voilà. Ouais, ouais.
Il faut chiffrer. Donc, moi, je me suis tourné vers des entreprises de la place. J'ai eu du mal à avoir des devis parce que je pense qu'ils ont tous bien compris que le terrain était compliqué et l'accès aussi était difficile parce que il fallait une barrière de chantier en contrebas sur l'accotement. On a appris après qu'on devait bloquer la moitié, une voie sur deux sur un axe trépassant, donc avec des autorisations à obtenir 2 semaines à l'avance, etc. Donc voilà, et puis forcément quand on passe par un pavillonneur, il prend sa marge, ce qui est normal, parce que c'est beaucoup de travail, et ça rentre pas toujours forcément dans le budget. Donc oui, après, j'avais besoin d'avoir des chiffres pour monter le dossier bancaire, parce que la banque va demander des devis, et puis après, je me suis orienté vers une construction en corps d'état séparé. Voilà. Donc j'ai été chercher, effectivement, un gros œuvre, un couvreur, un plombier, un plaquiste, un carreleur.
J'imagine que tu avais déjà des connaissances, puisque vu que toi, enfin ton père en l'occurrence, était dans le BTP. Hein,
oui.
Il a pu aussi t'orienter.
Mon père, mon grand-père, mon oncle, etc. Mais bon, en l'occurrence, là, il est retraité. C'est peut-être plus mon activité professionnelle et mon réseau.
Avec ton propre réseau, oui.
D'amis, en discutant à droite, à gauche. Et puis donc
c'est une question que je voulais te poser d'ailleurs. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, finalement, actuellement t'es banquier, qu'est-ce que ça t'avait apporté de faire ce métier dans tous tes projets immobiliers, peut-être
de savoir compter
le réseau et savoir compter,
bah, le réseau, après, hein, tout à chacun peut se le faire, surtout qu'on est sur un petit pays, donc on a toujours un ami ou de la famille, etc. Mais c'est peut-être plus le côté rigueur et maîtrise du risque, c'est-à-dire que il faut avancer, il faut voilà, mais il faut pas non plus le faire tête baissée. Il faut savoir où on met les pieds, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est important de prioriser, d'ordonner les étapes pour savoir où on va. J'ai étudié plusieurs possibilités. Il y en a une, c'était de faire quelque chose de beaucoup plus modeste en termes de taille. Mais j'ai eu peur que le plan d'urbanisme évolue avec une réduction des droits à bâtir, ce qui est très possible. Et je me serais retrouvé avec un terrain relativement grand, donc réduit tard, et puis une construction ridicule dessus. Donc ça aurait été incohérent et une perte au final. Donc il fallait. Mais j'ai quand même étudié.
C'était dans le but de peut-être pouvoir agrandir plus tard.
C'était de ouais, exactement et de le faire là, voilà. Et en fait par rapport à la configuration du terrain aussi, encore une fois, l'accès, les murs totalement, les mouvements de terre, malgré tout il y en a eu, c'était pas possible. Donc il y a eu un cheminement quand même pour en arriver à cette conclusion. Et puis après, donc je suis parti sur le chiffrage et puis sur la recherche des entreprises. Donc il y a eu beaucoup de rendez-vous sur le chantier et beaucoup qui vous disent oui, pas de problème, on vous fait le devis, on vous l'envoie, et qui se plaignent de pas avoir de travail, et puis finalement de relance en relance on a rien.
Ok, t'as eu des gens comme ça?
Ah oui, mais dans tous les corps d'État, hein.
Voilà. Ouais, mais je crois que ça fait un peu partie du jeu, j'ai l'impression, hein, quand tu te lances un peu dans cette aventure de l'investissement immobilier, quand tu as des travaux de rénovation à faire. Donc là, c'est la construction neuve, donc c'est vraiment tout, quoi. Ça fait vraiment partie du truc.
Alors, pour te dire, on est parti avec une personne qu'on m'avait recommandée, avec laquelle j'ai développé une relation amicale, qui m'avait fait bonne impression. Et puis, en fait, on n'a pas été bien loin. Je suis venu un soir à 18h, il faisait nuit, pour vérifier des implantations de fondation. Et pour moi, c'était pas propre et pas carré. On devait couler le lendemain. Rien n'était en place. Les coffrages n'allaient pas. Les matériaux n'étaient pas livrés. Et
donc,
je l'ai appelé, il avait des excuses, ça a gueulé, j'ai raccroché, puis finalement 5 minutes plus tard je l'ai appelé et puis je lui ai dit qu'on arrêtait là.
Ok, t'as donc, pas voulu aller,
non, mais du coup j'ai planté moi-même mon propre chantier, donc il a fallu très vite retrouver une entreprise rapidement.
Parce que lui, en fait, en grosso modo, c'était la personne qui était censée bâtir l'ensemble.
C'est ça, mais
ou avec ses équipes, hein, j'imagine, pas tout
oui,
seul.
Oui, voilà, avec ses gars, mais en fait, c'était quelqu'un. Je pense que c'était peut-être pas le bon moment. Il a peut-être plus des capacités à faire des petits chantiers. C'était peut-être un trop gros chantier.
Ouais.
Et
okay.
Qui lui a paru intéressant, donc il voulait le faire. Et puis je lui ai fait confiance aussi, parce que encore une fois, on avait développé une relation amicale.
Ouais,
et
ouais.
Puis je me suis rendu compte très vite que c'était une erreur.
T'avais eu l'œil quand même de dire, attends, mais là, ça va pas, quoi.
Et il fallait prendre une décision.
Avec ton regard déjà, avec tout ce que t'avais pu faire par le passé.
Ben, les fondations, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Il y a deux choses vraiment importantes. Bon, après, il y a la toiture, bien sûr, mais la fondation et tout ce qui est gestion de l'eau.
C'est la base, je dirais.
Voilà, et là, il a eu des bonnes idées, il y a eu des moments où ça s'est bien passé, et puis, de toute façon, on va très vite, hein, quand il y a une personne qui dit oui, et puis qu'il se passe rien.
Ouais. Et du coup, tu plantes. Donc ça, c'est une sacrée. Je veux dire, dans les étapes du projet, c'est. Faut avoir une sacrée paire, tu vois. On en revient toujours à la même chose. T'es l'Indiana Jones de l'immobilier, je trouve, parce que à plusieurs moments, t'as eu des mauvaises surprises, t'as tout remis en question. Enfin, dans ton parcours en général, en global, on va dire. Et du coup, ça continue. Hein.
Oui, il y a toujours des aléas et des anicroches, mais là, en tout cas, sur ce coup-là, il fallait réagir vite, parce qu'il y a le différé du crédit qui court. Le différé, c'est la période pendant laquelle on paye que les intérêts.
Yes. T'avais pris un différé de combien, toi, du coup?
Le maximum à l'époque, j'avais pris le maximum possible. Me disant, c'était 18 mois, en me disant, si j'ai fini plus tôt, je partirai en amortissement plus tôt.
Ouais,
au moins, ça me laisse de la marge de manœuvre. Et à l'issue du différé, il faut payer l'amortissement. Donc, il faut que la maison soit faite, qu'elle soit habitable, etc.
Et tout à fait, oui.
Voilà, donc là.
J'imagine, on pourra peut-être parler du financement, reparler du financement après. Tu as eu un financement avec ta propre structure bancaire, enfin, là où tu travailles.
Oui, tant qu'à faire, mais ça a été des fois le cordonnier est le plus mal chaussé, donc je suis reconnaissant d'avoir ce crédit. Bon, il a fallu que je fasse un certain montant d'autofinancement, etc. Ça a été malgré tout très long, les assurances aussi très long, donc ça m'a permis de peaufiner le dossier aussi, et puis voilà. Et du coup, il a fallu que je trouve un autre grosseur. Et en fait, j'ai été vers une entreprise qui avait les capacités mais qui n'était pas en très bonne santé financière, qui était sous-traitante pour des grosses boîtes ici, je ne vais pas donner de nom, mais qui faisait des immeubles, etc.
D'accord.
Et ça intéressait le patron. Donc on est tombé d'accord sur le prix et les modalités, et on a relancé le chantier assez rapidement.
Ok. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Parce que l'autre facette vraiment intéressante, au-delà de l'aspect entrepreneur et investisseur, tu as cette facette négociateur, j'ai envie de dire, où tu arrives à discuter, comme tu disais, il y a le donnant-donnant, on trouve un bon accord, mais tu arrives quand même aussi à... ça s'est vu sur ta première acquisition, où tu as gagné 8 millions, en laissant passer 8 mois, d'accord? Enfin, la deuxième acquisition. Et du coup, dans la négociation des devis, si tu peux nous parler un peu de l'importance de ce levier, finalement, parce que tout ce que tu gagnes en négociant, c'est clair que pour toi, c'est bénef, quoi. C'est de la rentabilité. Et aussi, tu peux équilibrer à cette condition, peut-être, ton opération.
Alors, il faut faire attention, il ne faut pas trop tirer sur les prix non plus. On parle il y a la notion de mieux 10 ans et de moins 10 ans. Alors on fait souvent l'erreur, et moi le premier, d'aller vers le moins 10 ans, c'est-à-dire vers le moins cher, au lieu d'aller vers le mieux 10 ans, c'est-à-dire celui qui offrira le meilleur rapport qualité-prix. Et je pense que ce qui est important, c'est déjà de bien connaître les prix du marché. Donc, et ça commence par connaître le prix des fournitures. Donc pour ça, il faut faire des demandes de vie. Donc je parle des matériaux. Il faut aller les entreprises spécialisées, dans les quincailleries. Il faut connaître un petit peu l'environnement. Il faut faire plusieurs demandes de devis, etc., etc. Et après, je savais que j'allais vers une entreprise qui avait besoin de travailler. Donc il y avait une marge de négociation. Son carnet de commandes n'était pas plein. Et l'emplacement était intéressant aussi pour l'entreprise. Ça lui a apporté de la visibilité, une référence supplémentaire, et je le savais pertinemment. Donc après, j'ai eu de l'aide aussi d'un ami ingénieur dans une grosse structure aussi de BTP, qui m'a aidé à chiffrer tous les volumes, faire un métrage en fait.
Okay.
Et après, bon, j'ai beaucoup discuté avec lui pour comprendre la différence avec la quantité de ferraillage dans une poutre, dans une dalle, dans un poteau, pour pouvoir discuter des prix.
Okay.
Et donc voilà, des fois quand on vous parle de certains bétons, finalement c'est la même chose et il y a deux prix différents, donc j'étais pas d'accord, et
okay, etc. Okay. Voilà. Ouais, donc là il y a trois critères que tu viens de citer là, que c'est hyper important, je trouve hyper intéressant, tu vas les rappeler. Donc tu viens de dire, c'est bien connaître les prix du marché. À toi de bien connaître en fait, bah, combien ça coûte tel truc, au niveau des matériaux ou de la prestation.
Ouais, les deux.
Tu connaissais, donc deuxième chose, c'est que tu connaissais, t'avais des informations de ton interlocuteur finalement, qui lui il était peut-être pas au courant que tu savais.
Bah, ça se sent.
Qu'il était en difficulté et... ou t'avais peut-être des infos.
Oui,
donc ça, ouais. Ça aide clairement apparemment dans la négoce quoi.
C'est important en fait, j'avais été voir d'autres chantiers qu'il avait fait, ouais. J'avais discuté avec les personnes qu'il avait employées, donc j'avais vu quelles étaient les choses qu'il avait très bien fait, ou au contraire un petit peu moins bien fait, donc pour éventuellement pas lui confier. Et puis j'avais aussi travaillé sur un vrai contrat professionnel, c'est-à-dire c'était pas juste un devis signé, c'est que je lui ai fait signer les actes d'engagement, des PGF, etc., qui en fait précisait que c'était à lui de gérer la signalisation du chantier, des pénalités en cas de retard, une date de fin, donc par la force des choses. Voilà, donc c'était bien encadré. Et puis après, bon, je passe le détail de la négociation pour tomber d'accord sur le prix. Et puis après, moi j'ai pris pas mal de matériaux à ma charge aussi, qui sont venus en déduction de ces situations, parce que j'ai eu des meilleurs prix que lui sur certaines choses. Okay. Voilà.
Et ça, c'était, tu t'es arrangé en fait avec lui à dire, ok, bon, moi je prends ça, on déduit du devis initial, ou enfin, il y a eu peut-être des réarrangements après.
Oui, bah en fait, il était dans une situation financière, comme je disais tout à l'heure, qui était,
ouais, il était pas des pleine, meilleurs. Pleine forme, quoi.
Et donc, en fait, moi, ça rassurait les fournisseurs de savoir, dans le milieu, on appelle ça payer au cul du camion. Et en fait, moi, je payais pas à 30 ou à 60 jours fin de mois. Et quand j'étais livré, je payais rubis sur l'ongle. Et donc, du coup, je pouvais avoir la disponibilité, je pouvais avoir les prix, je pouvais avoir tout ça. Donc, quelque part, ça l'arrangeait. Il avait plus ça à gérer en trésor. Et moi, ça me permettait d'avoir des meilleurs tarifs aussi. Donc, bon, je rentre pas dans le détail, mais on a fonctionné comme ça.
Ok. Pour les matériaux, c'était comptant 100%, quoi, la livraison, en fait.
Exactement. Okay. Ou quand je recevais la facture. Ne me précipitez pas pour l'avoir si je l'avais pas. Mais...
Ok, ok. Voilà. Ouais, du coup, après, j'imagine que c'était lié à la partie travaux de ton crédit, du coup.
Oui.
Où tu défales, enfin, tu payes les tranches au fur et à mesure, en
voilà,
fait.
Voilà, l'utilisation du crédit, alors ça dépend des banques, mais ils apprécient pas trop qu'on leur donne juste une facture. Donc souvent, il y a du regroupement de factures. Et il y a deux façons de payer les travaux. Donc la première, c'est de régler directement les entreprises par virement. Et la seconde, c'est de se faire rembourser ce qu'on a payé sur fonds propres avec un justificatif de paiement. Donc ça, c'est important aussi pour des petites factures, pour pas bloquer l'avancement et conserver une dynamique sur le chantier, d'avoir un fonds de roulement aussi, pouvoir régler les petites factures, on se les fait rembourser, on reconstitue le fonds de roulement et on continue comme ça.
Ça permet de pas passer ta vie à aller chercher des factures et
de pas faire attendre les artisans sur des petites factures pour les garder sur le chantier surtout. Voilà.
Et ouais, effectivement, ouais. Donc, du coup, t'avances aussi plus vite ton chantier.
Un chantier qui s'arrête, c'est jamais bon, parce que le problème, c'est que tous les corps d'État sont liés. Donc, quand on coule une dalle, il faut que les réseaux électriques soient passés, la plomberie également, tout ce qui est tuyauterie, etc. Donc, après, on rentre dans le pilotage et la coordination aussi. Donc, il faut garder ces entreprises et ces artisans disponibles et disposés à intervenir sur le chantier à telle date, parce que on rentre dans la coordination, et s'il y en a un qui retarde l'autre, c'est là que ça part à volo et que les relations deviennent mauvaises. Donc il y a tout ce côté coordination, pilotage aussi.
Alors moi ce qui me met vraiment sur le cul, c'est que c'est la première fois que tu fais de la construction en fait, hein. et j'ai l'impression que je m'adresse à un promoteur professionnel, en fait. Au niveau technique, enfin, les compétences techniques que tu as pu développer, la connaissance, comme tu dis déjà, au niveau du devis, tu dois être au courant du prix, du machin, de combien ça va coûter, de la contrainte technique associée, déjà pour bien négocier. Et puis là, bah, comment tu peux nous expliquer, en fait, t'es parti un peu de zéro, mais comment t'es formé, t'as appris petit à petit, en discutant, j'imagine, avec ton bureau d'études, ou
en discutant avec tout le monde.
Finalement, t'es parti à de quel niveau, et là, t'as un niveau où, bah ouais, tu connais vraiment tout, quasiment, enfin, t'as étudié.
Non, je connais pas tout, mais
on peut pas tout connaître, mais quand même, t'as une bonne idée de comment ils construisent la maison et.
Alors, il y a trois sources d'informations. La meilleure, c'est d'aller sur des chantiers. Et de regarder comment ça se passe et de se poser des questions et pourquoi on fait ça comme ça et pourquoi on fait ça à tel moment. Donc ça, c'est la première. Après, c'est des discussions informelles avec des personnes qui sont de la partie. Le souci, c'est que chacun a son avis et que des fois, ils sont contradictoires. Et le troisième, c'est Internet, bien évidemment, ou les bouquins, peu importe, mais il y a quand même une grande source d'informations. Et il faut, en fait, synthétiser tout ça et puis se faire sa propre opinion et sa propre idée et comprendre voilà quels sont les points importants, l'enrobage du béton, pas mettre trop d'eau, que les fouilles des puits soient propres, enfin bref, que il y a pas mal de choses à que les réservations ne soient pas pincées. Il y a beaucoup de choses à voir, mais j'ai envie de dire tout ça c'est du bon sens. C'est du bon sens paysan, c'est du pragmatisme. C'est que on défend rien en se posant 5 minutes en réfléchissant, on a des idées, on arrive à comprendre parce qu'après il faut essayer d'optimiser aussi le chantier, donc mais ça vient si on est motivé et si on compte pas son temps. Alors là c'est des petites nuits encore, hein, tout ça a été pas de week-end, pas de vacances ou des vacances à travailler.
C'est
beaucoup de temps, ça vient pas comme ça de façon.
C'est pas en claquant des doigts, il y a quand même énormément de travail derrière tout ce que t'as fait, quoi.
Il y a pas mal d'heures de travail, ouais. En effet.
Et justement, en fait, bah, j'imagine, toi, tu voulais ta maison, tu l'avais imaginé, tu avais cette vision en tête. En fait, en gros, qu'est-ce qui t'a porté, en fait, à surmonter toutes ces épreuves? Et parce qu'il faut avoir les reins solides, hein. Enfin, d'un certain côté.
Ouais, je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes d'avoir quand même d'être propriétaire de sa résidence principale, pour commencer. Ouais. Après, à nos âges, quand on n'est pas encore à la retraite ou plus âgé et que les enfants sont partis, d'avoir une villa. Je trouve que c'était un bel objectif.
C'est pas la villa F4 de base à Païta, je veux dire, que t'avais vraiment un rêve en tête, j'imagine. T'avais vraiment un truc.
C'était d'optimiser et de rendre tout ça modulable, évolutif. Et puis, il y a pas mal de choses qui doivent se faire au moment de la construction, parce qu'après, ça coûte plus cher. Donc, prévoir ce qu'on appelle des réservations. Mm-hmm. C'est-à-dire, par exemple, on n'a pas encore les moyens de mettre un système de sonorisation ou de vidéoprojecteur, mais on intègre quand même dans les cloisons tout ça. On n'a pas encore les moyens de climatiser le salon, mais tout est déjà posé dans les cloisons. L'isolation, on n'a pas lésiné, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fini, on n'y revient pas, ou ça coûte très cher.
C'est important avec la chaleur qu'on a, surtout en toiture.
Voilà, et puis quand il pleut aussi, ça isole, l'isolation du bruit, c'est important. Donc,
un double plafond, en fait, avec une couche.
Un faux plafond.
On la voit là, parce que c'est ouvert.
Bah en fait, oui, en bas, j'ai mis de la boîte de cellulose, et puis là, c'est de la fibre toute simple, assez épaisse.
Ok.
Et après, je veux dire, à partir du moment où, de toute façon, on a commencé, il faut aller jusqu'au bout, parce que se retrouver au milieu du guet, c'est bon pour personne.
Ouais,
donc,
ouais.
Après, on fonce, et il y a des coups durs, mais bon.
T'as pas le choix, quoi.
Voilà, on tient bon.
Ouais, excellent. Et finalement, pour toi, dès le départ, c'était un truc qui était complètement impossible, c'était pas inimaginable, et t'avais juste à maîtriser certaines contraintes techniques, à rencontrer les bonnes personnes, finalement.
Moi, je me suis déjà fixé des challenges, même quand j'étais plus jeune, adolescent et tout. Je vais pas raconter ma vie, rentrer dans le détail, mais je pense que les gens qui me connaissent savent que je suis assez entêté, pour pas dire tenace. Et à partir du moment où je m'étais fixé cet objectif, donc il n'est pas encore complètement atteint, mais bon, je pense qu'on est à 80-90%. Il fallait y arriver, et puis surtout, je pense que j'ai toujours eu l'habitude de beaucoup bosser. Donc, ouais. Il faut pas avoir peur du travail, c'est tout. Même si des fois, le corps dit stop, bon, là, il faut savoir s'arrêter, mais il faut toujours trouver la motivation, et c'est vrai que de faire soi-même l'autoconstruction, comme tout ce qu'on peut faire soi-même de manuel, hein, il y a une certaine satisfaction,
ouais,
après,
ouais.
Voire même une certaine fierté aussi. Et puis après, on connaît sa maison, etc. L'entretien est facilité, et puis ça donne peut-être d'autres idées.
Enfin, ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'enveloppe globale du projet? Alors terrain, construction, on va dire construction, on va dire tout compris, quoi.
Ouais, on est un.
Par rapport à tes prévisions et la réalité, enfin, j'imagine que il y a souvent, c'est rare que ce soit moins que la prévision, mais
ouais,
souvent le contraire. Mais tu peux nous donner des ordres d'idées un peu, pas forcément.
Pour simplifier, hein, je pense que quand on aura fini, donc piscine comprise et second œuvre achevée à l'étage supérieur, et tous les aménagements extérieurs, enfin bref, vraiment fini, on sera un petit peu moins de 1 million d'euros, et ce qui représente à peu près 15-20% de plus que ce que j'avais prévu, parce que très consciemment, j'avais.
Ouais, c'était les chiffres que tu avais déjà en tête.
Bah, non, j'étais sur 15-20% de moins par rapport à. De toute façon, j'avais un certain budget, et puis l'idée c'était de faire le maximum avec ce budget, et puis c'est tout. Donc, après, il y a des choses qui se sont rajoutées, des choses qui m'ont été enlevées, et puis des choses qui vont se faire dans le temps. Mais quand j'ai fait mon calcul de prêt de revient, et j'ai pas mis de ligne imprévue, alors que théoriquement on prévoit au moins 5% d'imprévu, et là c'est différent, c'est notre résidence principale, donc il y a certaines choses où forcément on dépasse, quoi, voilà.
Et ouais, parce que tu te disais ça, ouais, mais c'est dommage de pas faire ça, etc. Et puis ça en finit
exactement.
Pas, quoi. Donc est-ce que tu peux nous décrire les petits détails, alors juste pour, tu vois, essayer de peindre un peu le tableau pour les auditeurs qui n'ont que le son. Tu vois, par exemple, on a une baie vitrée, c'est quoi, il y a à peu près 10 mètres, un peu plus.
Non, la baie vitrée, elle fait 6 mètres. Donc la contrainte, c'était pas la baie vitrée, c'était le volet roulant.
Un seul volet roulant.
Ouais, on voulait d'un seul tenant, et
t'as 3 baies vitrées en dessous sur une ouverture totale de 6 mètres sans
plus trop milieu, quoi. J'ai hésité entre 3 et 4. Voilà, et je voulais en avoir 4 pour avoir. En fait, il y a plusieurs rails, donc elles peuvent être toutes mises d'un côté ou de l'autre. Enfin, c'est modulable, c'est plutôt sympa. Et là, en l'occurrence, on a mis des impostes au-dessus.
Ces petites ouvertures au-dessus, là. Hein.
Voilà. Ouais,
c'est ça que je voulais te parler.
Avec un système. Bah, l'idée, en fait, vu qu'on est exposé au vent, c'était de jouer avec le volet roulant qu'on pouvait descendre, et ça fonctionne très bien d'ailleurs, on a testé.
Mm-hmm.
C'était de pouvoir réguler le flux d'air, parce que j'avais constaté chez nos voisins qui nous avaient reçus et des amis qui habitent dans le quartier, que quand il y a beaucoup de vent, il y a deux possibilités si on veut avoir de l'air. Soit on laisse une baie vitrée légèrement ouverte et ça siffle, soit on l'ouvre un peu plus et tout s'envole.
Ouais, donc, c'est ça. Parce que là, il y a 15-20 nœuds, quoi. Faut préciser que
quand
t'étais en face, quoi.
ça souffle, voire des fois plus. Donc ouais, là, l'idée, c'était de, voilà, avec le volet roulant, de pouvoir régler ça. Et puis ça, et de diriger le flux d'air, en fait, sur le plafond pour chasser la lentille d'air chaud en été. Et ça fonctionne pas mal. Et puis le côté double traversant aussi, sur les côtés. On a mis beaucoup de portes avec des jalousies. Et ça, pour l'instant, ça fonctionne bien.
Ouais. Alors, la chambre, t'as quand même baie vitrée, donc pareil, hein, belle vue de la chambre.
Ouais.
Et salle de bain, donc je me souviens, tu m'as fait visiter, où t'as baie vitrée avec vue sur mer, un peu en traversant à travers la chambre.
Ouais, alors
quand tu prends ta douche, donc c'est vraiment un cadre vraiment sympa.
Ouais. Ouais, la douche, ouais, ça a coûté cher, mais bon, c'est sympa. C'est pas moi qui ai eu cette idée, en fait. À un moment, je manquais un peu de recul par rapport à certaines choses, les choix des emplacements pour les luminaires, ou le choix des luminaires, les peintures. les couleurs des peintures à l'intérieur. Et du coup, on s'est attaché les services d'un architecte d'intérieur.
Et ouais, c'est pas mal, ça.
Nero, qui est d'origine brésilienne et qui a étudié en Australie, qui est installé sur le territoire. Et c'est lui qui a eu cette idée. Donc, en effet, il nous a mis on a mis un double vitrage pour, si un est réveillé et l'autre pas se déranger, avec un store aussi qui peut descendre si on le souhaite.
Excellent.
Et l'idée, c'était de cette pièce qui était derrière, parce que je voulais qu'on puisse aller se doucher quand on sort de la piscine ou d'un futur spa en rentrant directement dans la salle d'eau. Il y a une porte, mais en même temps, on voit à travers la chambre, et ouais, c'est sympa. On a le lever du soleil.
Super réfléchi, les accès, communication. Et alors, de l'autre sens, du coup, t'as les sanitaires.
Oui.
Et tu m'avais fait remarquer qu'il y avait un alignement, en fait.
Oui, en haut et en bas, ouais. En fait, les jalousies, il faut pas les mettre là où il y a les vents réunions, parce que c'est pas parfaitement étanche.
Ouais.
Donc, on les a placées ici. Et l'idée, c'est que, c'est le principe du courant d'air avec les dépressions, etc. Mais ça crée une circulation d'air, mais sur des façades du bâtiment qui sont pas exposées directement au vent. Donc, il y a toujours une circulation d'air, ouais. En haut, en bas. Okay.
Du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi de cet aspect du coup, il y a deux niveaux.
Oui.
Donc toi, t'as prévu aussi que ta famille s'agrandisse.
Ben oui, on
l'espère. Et donc, je dirais, ouais, effectivement, t'as vu grand, quoi.
Oui, mais c'est pas que des enfants à venir, on espère, mais.
Ce projet aussi, tu peux nous. Attends, je te coupe, mais juste pour du coup aller jusqu'au bout de ma pensée. Depuis que vous puissiez aussi optimiser toute la surface en louant une partie, peut-être en location meublée, Airbnb.
Oui, forcément, parce que pour l'instant, donc l'idée, oui, c'est pas que les enfants, ça peut être aussi, ça arrive souvent les parents, les beaux-parents quand ils sont un peu plus âgés, ou ne serait-ce que des amis de Bruce quand ils descendent à Nouméa, ça fait toujours plaisir de les accueillir dans de bonnes conditions et qu'ils puissent avoir un espace avec leur salle de bain, leur WC, etc. Ou de la famille de métropole ou des amis de l'étranger. Donc,
ouais, parce que finalement, c'est comme si t'avais deux villas complètement indépendantes, quoi.
Ça peut fonctionner effectivement comme deux niveaux indépendants ou comme une grande villa. On a fait ça pour, en fait.
T'as un escalier à l'intérieur et aussi des accès en extérieur. Du coup.
Alors, on a mis beaucoup de portes partout.
Ouais, je vois ça. Ouais.
Et puis c'est sympa quand il y a des escaliers. Moi, j'ai ça chez un de mes oncles aussi. Il y a une cuisine en haut, une cuisine en bas, donc ça évite d'avoir à monter, descendre. Si on veut utiliser, parce qu'en bas, il y a une terrasse couverte, il y a aussi un jardin. Et l'idée, oui, vu qu'on arrive maintenant en fin de capacité financière et qu'on aimerait bien couvrir un petit peu l'extérieur, finir la piscine, sonoriser tout ça, éventuellement de louer un Airbnb, bon ça c'est de plus en plus, ou en location meublée, il y a des gens qui viennent des fois de métropole ou autre et qui sont contents de profiter de l'emplacement et ça financera les travaux.
Et ouais, exact, bah ouais, c'est ça. Parce que j'imagine que ta traite là, du coup, effectivement ça. Enfin, t'as ce côté aussi investisseur. Ok, une super opération, super résidence, mais du coup aussi ça, tu peux amortir un peu ta villa en louant comme ça.
Oui, ou partir, pourquoi pas en voilier, faire le tour du monde, tout louer, et puis pourquoi pas. C'est une idée.
D'accord, c'est pas mal aussi.
On verra.
Yes. Écoute, je sais plus du tout où j'en étais dans mon questionnaire, dans mon guide. Déjà, c'est excellent tout ce que tu as pu nous apporter. Je voulais te poser cette question, ça y est, je voulais te poser cette question. Dans tout ce que tu as connu là depuis le début de ce chantier, si tu pouvais, il y en a eu plusieurs, je sais, mais si tu pouvais citer une des pires galères qui pour toi était la pire en fait. J'en ai une en tête, que tu m'avais raconté.
Ouais, je sais à quoi tu fais référence, mais c'est vrai que c'était. Oui, effectivement, il y en a eu deux principales, et il y en a eu pas mal, mais il y en a une où une de nos connaissances nous a prévenu que la barrière de chantier était en train de tomber un petit peu sur la chaussée et la voie. Encore une fois, c'est très passant.
Ouais.
Donc, et pourquoi ? Parce qu'on a eu une livraison de matériaux, de schiste, et que le camion a pas fait attention et a pas étalé ça comme il fallait, et s'est appuyé sur la barrière qui était pas faite pour. Et du coup, bon, ben voilà, le poids a tordu les piquets, les poteaux. Et donc, on s'est retrouvé à 4h30 ou 5h du matin à quatre pattes au bord avec les voitures qui nous passaient à quelques dizaines de centimètres de la tête. D'abord dans la pénombre et puis après en plein soleil avec des gants à devoir bouger ces plusieurs mètres cubes de matériaux. Non, c'était du schiste, des cailloux anguleux en fait.
Voilà.
Des gros cailloux anguleux.
Horrible.
Donc, bon, de toute façon, il n'y avait pas le choix là encore, donc on n'avait pas le choix.
Ouais,
donc,
vous avez mis combien de temps ? Plusieurs heures, tu te dis en fait ?
Ouais, bah après, hein, il a fallu redresser la barrière, la refaire, mais ouais, plusieurs heures. Hein. Et, ouais, okay. Et après, hein, il a fallu tout refaire. Enfin,
ouais. Et parce que ouais, du coup, la route là, c'est celle dont tu parles, il y a quoi ? Il y a une voiture toutes les 3-4 secondes, quoi.
Je crois qu'il y a 30 000 personnes qui passent par
ouais,
jour.
Ouais, donc c'est l'une des plus passantes, enfin, c'est très très passant. Quoi.
Ouais, les gens, ouais, c'est le bord de mer, donc les gens passent, ouais.
Donc c'était, ouais, c'était super chaud, super chaud. En plus, 4h du matin, super dangereux avec les voitures. Et puis, laisse tomber, les mètres cubes de caillasse à ramasser à la brouette.
Ouais, bah même pas, hein, on pouvait même pas rouler avec la brouette parce que... Mais bon, bref, on l'a fait. Bon, ça, c'était ça, un souvenir, on n'oubliera pas. Puis on en a un autre qui était pas mal aussi, c'est qu'il y a eu une, okay. Alors, je sais plus, c'était une dépression ou un cyclone. Et on n'était pas encore hors d'air, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les menuiseries aluminium, on n'était pas fermé.
D'accord.
Et du coup, bah, y a la flotte qui rentrait sur l'étage du haut, alors qu'on avait déjà commencé les placos en bas. Et bon, il se trouve qu'il y a des endroits, dans les douches à l'italienne, on a fait des configurations particulières de dalles. Et du coup, bah, l'eau pouvait rentrer et s'infiltrer en bas, donc... Pareil, on s'est retrouvé à des heures où normalement on dort avec des grands balais à deux à essayer de bloquer du mieux qu'on pouvait l'arrivée d'eau et puis surtout la canaliser et la chasser.
Ouais.
On a quand même eu un plafond qui s'est effondré en bas, il a fallu tout refaire mais on a limité la casse.
Avec l'infiltration d'eau en fait.
Avec l'infiltration, avec le poids. Et ça s'est pas effondré tout de suite. Plusieurs jours après, l'isolation s'est gonflée d'eau
et
puis c'est tombé un petit peu plus tard. Mais ouais, ça c'était
stressant. Parce qu'à ce moment-là, vous y habitez déjà en fait ?
Non, pas encore.
Pas encore.
Mais c'était tout comme, parce que moi j'étais le matin, le midi, le soir.
T'étais dessus quoi déjà.
On n'y dormait pas.
Surveiller sur le chantier, avancer aussi. Ouais.
Il faut tout le temps être là. Ça c'est indispensable. Surtout avant les coulages béton.
Et ouais. Donc finalement, tu as été investigateur, créateur du projet, chef de chantier. Je sais pas comment t'appelles ça, un aménageur aussi, c'est la personne qui est vraiment au milieu de tous les corps de métier, maître d'œuvre.
Ouais, maître d'œuvre et maître d'ouvrage, les deux, ouais. Avec du pilotage et les achats et le financement.
Ouais. Aujourd'hui, si tu te projettes là, tu es dans les finitions, les travaux sont bientôt terminés, la piscine, bon, elle n'est pas encore terminée, mais. Elle prend bien forme, hein, je vois ça. J'imagine que tu as hâte aussi que ça se termine maintenant.
Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'on essaye toujours de conserver une dynamique, donc en fonction des finances. Et quoi qu'il arrive, qu'il y ait des choses qui soient réalisées en permanence, et en général, c'est forcément visible. Donc, tant qu'on est dans cette dynamique et que les choses changent et évoluent, il y a un moment où j'ai arrêté de compter, j'ai arrêté de tenir mes tableaux, j'ai arrêté de fixer un calendrier. Donc, on a hâte que ça se termine. Mais,
tu vas au plus vite, quoi.
Voilà, après, il y a des petits plaisirs. En ce moment, c'est les aménagements extérieurs, les plantations.
Ouais.
Peut-être que dans pas longtemps, on se fera un petit terrain de pétanque pour décompresser. C'est pas grand-chose, ça coûte pas très cher, mais c'est des petits plus... qu'on y vit de mieux en mieux.
Yes.
Voilà.
Ok, super. Je reviens un peu sur le côté financement. Il y a une question que je vais te poser, hein, excuse-moi, parce que c'est pas dans l'ordre. Mais peu importe. Ma question, c'était à quelles conditions, en fait, tu as eu ton crédit ? J'imagine sur une longue durée, avec un taux que tu as pu peut-être négocier, ou tu peux nous dire un peu ?
Oui, bah alors le taux négocié non. Après, ça peut éventuellement se revoir, mais sous certaines conditions, si les taux évoluent à la baisse. Mais c'est surtout, en fait, j'avais anticipé sur sur l'autofinancement, c'est-à-dire que j'avais comme on peut avoir des fois certains livrets bloqués, etc. Bref, j'avais de l'autofinancement, ma compagne aussi un petit peu. Donc ça, c'était déterminant.
Ça, c'est votre apport, du coup.
Ouais,
c'était l'apport. Et ça, c'est l'apport que t'as pu constituer en revendant un
de tes biens. Non, c'était pour lancer le... Non, parce qu'au début, j'avais pas prévu de...
Votre épargne de côté, en fait.
Ouais.
Parce que ça, c'est un projet que vous avez financé sur vos deux noms.
Ouais. Okay. Ouais, avec une répartition.
Okay.
Par rapport à nos capacités pour se porter caution.
Donc, c'est pas une SCI, là, comme la dernière fois.
Non.
En nom propre, ouais. Avec vos deux noms, quoi.
Ouais, exactement. Okay. Et après le financement classique, hein, ils ont pris en compte malgré tout le fait que j'avais déjà des biens qui rapportent un revenu locatif sur lesquels il y avait déjà eu de l'amortissement.
Et ouais, du coup ça t'a permis d'emprunter aussi peut-être plus que si tu les avais pas.
Bah du coup voilà, ça permet d'afficher un patrimoine net qui est pas énorme, mais en tout cas qui n'est pas nul. Des revenus, et puis ce que regarde la banque aussi, c'est voilà, si on avait une épargne, c'est que par définition on avait un comportement épargnant, et puis là il n'y a pas eu trop d'astuces, hein, on est rentré dans les clous, dans les critères, notre situation a été prise en compte, voilà.
Et du coup c'est quoi, sur 20 ans, 25 ans?
Alors moi je prends toujours la plus longue durée.
Ouais.
Même si les taux sont un petit peu plus élevés, forcément, parce que j'ai fait mes calculs. Alors ils valent ce qu'ils valent, mais je préfère en fait, en termes de trésorerie mensuelle, avoir des échéances plus faibles, quitte à avoir des capacités d'épargne plus élevées en parallèle. Alors, rien ne m'empêchera dans quelques années de demander de faire un remboursement anticipé partiel.
Ouais, complètement.
Et quand on regarde bien sur le coût du crédit au final, c'est kiff, voire des fois moins cher.
Ouais,
sauf que ça permet d'avoir plus de liberté, parce que si jamais cette épargne, je veux pas l'affecter à du remboursement anticipé, mais l'apporter en autofinancement pour faire un autre projet, ben j'en ai la possibilité.
Ouais.
Donc moi c'est comme ça que je vois les choses et je prends toujours la durée la plus longue possible, sauf si le taux vraiment a été beaucoup plus élevé, mais en général,
c'est pas énorme, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on peut réduire, quand tu as une durée longue, tu peux réduire ton crédit, mais l'inverse, c'est très compliqué. Si tu pars sur 15 ans, tu dis, finalement, je suis sur 25, non.
Ça veut dire qu'il y a un problème, donc ça veut dire que le projet va être scruté de près, et en général, c'est plus compliqué. Et pour moi, il faut voir la trésorerie aussi, c'est important. Il faut pas oublier aussi que sous certaines conditions, les intérêts d'emprunt sont déductibles. Donc finalement, quand on calcule bien aussi l'aspect fiscal, le delta est pas si important que ça. Il faut pas oublier que théoriquement, avec l'inflation, le montant de l'échéance du crédit va rester la même, mais nos rémunérations vont augmenter aussi. Donc on pourra supporter plus facilement, etc. Moi, c'est ma vision des choses.
Et en taux, t'as réussi à avoir un taux, c'est quoi les taux actuels? C'est entre 2 et 2,5 en Calédonie?
Oui,
à l'époque,
c'est ça.
T'as commencé à...
Oui, non, mais c'est ça, ouais, dans ces eaux-là, ouais.
Donc c'est un peu plus élevé qu'en métropole, mais pas non plus énorme, quoi.
C'est plus élevé qu'en métropole parce que le refinancement des banques en Calédonie
c'est pas le sujet, mais
c'est assez simple. C'est que pour vous donner une idée, par exemple, tout ce qui est assurance vie, ça passe par des grands groupes que tout le monde connaît, et c'est pas de l'argent qui reste sur le territoire mais qui repart en métropole, par exemple. Après il y a plein de gens qui diversifient aussi leur placement, et donc il y a de l'argent qui ne reste pas sur le territoire, et du coup les banques locales ont pas toutes, hein, et ça dépend des moments, mais des fois n'ont pas assez de ressources et doivent se refinancer, et elles se refinancent pas forcément vu leur taille et le marché au même prix que certains grands groupes, enfin certaines grandes banques en métropole. Donc forcément et puis faut aussi savoir que le niveau de vie, le coût de la vie est plus élevé en Calédonie, donc les salaires des personnels de banque sont plus élevés qu'en métropole. Et puis il faut aussi savoir que les outils informatiques doivent être adaptés aux spécificités locales, la devise, les taxes locales, donc il y a un vrai coût de l'informatique, donc voilà, des fois les gens comprennent pas.
C'est vrai, ouais.
Et puis après les banques affichent une certaine rentabilité, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis la crise des subprimes, il y a des nouvelles réglementations qui se sont mises en place avec une exigence de renforcement des réserves et des fonds propres, pour faire simple, pour continuer à prêter, il faut ne pas tout distribuer en dividendes et aux actionnaires de la banque, mais au contraire, placer et renforcer les fonds propres.
Ouais. Donc, c'est le matelas de sécurité, mais de la banque. Finalement.
C'est ça. Et en fait, maintenant, il est censé être plus élevé. Donc, une banque qui ne fait pas de résultats est une banque qui ne peut plus prêter. Et donc, qui risque d'asphyxier l'économie quelque part.
Donc, oui.
Donc voilà, après c'est pas ma spécialité, je suis pas directeur financier
d'une
banque.
Ouais, c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'on dépasse un peu le cadre. Ouais, excellent. Du coup, le temps passe, c'était hyper intéressant. On va passer aux trois questions que je pose à chaque fois à tous les invités qui passent derrière ce micro du podcast. La première question, est-ce que tu as une référence à nous partager, toi, qui t'a inspiré à ton niveau, un livre ou un auteur, un site internet, ça peut être n'importe quoi, tu vois, un truc.
Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est un petit peu lié à ma passion pour l'aviation, c'est Antoine de Saint-Exupéry, parce que c'est un sacré bonhomme, ça a été un aventurier, il s'est retrouvé au milieu de la Seconde Guerre mondiale de façon générale, j'aime bien les récits d'aviateurs de cette époque et voir l'aéropostale et Mermoz et etc.
Okay.
Pas exclusivement, mais bon, ça fait partie d'ouvrages qui m'ont marqué. Et puis, on en parlait tout à l'heure, avant de débuter, il y a une phrase de René Char que j'aime bien.
Ouais, vas-y.
Très, très simple, mais qui résume bien ma philosophie, en tout cas à l'heure actuelle. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Voilà.
Excellent. Excellent. Donc moi, effectivement, je disais ça te caractérise bien parce que t'as pas attendu, la chance arrive, te rencontrer. T'as vraiment ce mindset de l'entrepreneur en fait, qui a son idée, qui a sa vision et qui dit ok, moi c'est ça que je veux. Voilà, théoriquement c'est possible et puis on se donne les moyens d'y arriver quoi.
De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de secret, on n'a rien sans rien. Donc, ça doit passer par des sacrifices. Et plus on en fait, et plus on s'investit, et plus on donne quelque part, et plus on reçoit, et plus on a une satisfaction derrière. Donc, ça tombe jamais du ciel. À part être braqueur ou penser que ça va tomber au loto ou au PMU ou autre, ça passe par l'investissement et du travail. Et après, il y a une corrélation qui est bien connue aussi, c'est peut-être le côté finance, c'est que plus on fixe la barre haute en termes de risque et d'investissement, et plus on a potentiellement de rapports sur investissement. Petit risque, petit rapport, hein, c'est les investissements de mon père de famille, le compte épargne, et puis après, si on a plus d'ambition ou des objectifs plus élevés, il faut s'en donner les moyens. Donc, voilà, moi, mon modeste niveau... J'ai fait mon maximum.
Voilà. Excellent. Du coup, il y a une question qu'on dit aussi, qu'on pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que tu dirais du coup à une personne ou à un jeune comme ça qui, lui, du coup, adapté à sa situation, souhaite faire construire, tu vois, faire construire sa maison et est-ce que tu as un conseil ? Bon, tu en as beaucoup parlé déjà, hein, mais un conseil à lui donner
J'en ai deux. Le premier, c'est très facile à faire, c'est de commencer par avoir un comportement épargnant. On en parlait tout à l'heure, mais il faut avoir une capacité d'autofinancement. Quoi qu'il arrive, l'immobilier, que ça soit pour faire sa résidence principale, pour faire du locatif, pour faire la promotion du marchand de biens, ça commence toujours, mis à part dans de rares cas, avec une capacité d'autofinancement. Donc, et puis après, en cas de coup dur, il en faut. Donc, le premier point qu'on peut commencer tout de suite, c'est d'avoir un comportement épargnant. Voilà. Après, le second, c'est de, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est de bien connaître le marché. Donc, le prix des terrains, le prix des biens. Donc, pour ça, il faut regarder les annonces. Il faut discuter avec des professionnels. Il faut se rendre sur les salons. Il faut ne pas hésiter à aller visiter des biens, sans faire perdre du temps non plus aux agents immobiliers. Hein, mais il faut se faire sa propre idée. l'idée. Maintenant, bah, avec des podcasts comme le tien et Internet en général, il y a des sources d'informations assez intéressantes. Et puis après, c'est un petit peu contradictoire, mais quand on s'estime prêt, il faut savoir être rapide. Parce que la bonne affaire, entre guillemets, on n'est pas forcément le seul à l'identifier. Donc il faut, il y a un moment où il faut se jeter à l'eau. Il faut prendre la décision. C'est une question de feeling aussi. Mais il faut se dire, on y va. Parce que si on passe 3 semaines à réfléchir, c'est trop tard. Le bien est déjà vendu. Enfin, ça dépend des cas, mais bon.
Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup, encore une fois. Est-ce que tu as un message à faire passer? Tu voudrais dire un truc?
Commencer jeune, il n'est jamais trop tard, mais en fait c'est l'idée de faire boule de neige, de se constituer sa retraite. Il faut pas se leurrer, on est quand même plus de, on a plus de capacité physique, de résistance physique et de curiosité quand on est jeune. Donc il faut pas faire n'importe quoi, mais il faut pas avoir peur, s'entourer, et plus on commence jeune, et plus ça portera ses fruits, c'est évident.
Ouais, excellent. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience, pour ton accueil et pour toutes ces pépites que tu as pu nous délivrer aujourd'hui.
Je sais pas.
Voilà.
Avec plaisir. Ouais.
Et puis peut-être à très très bientôt pour un nouvel épisode sur d'autres projets. On verra ce que l'avenir nous réserve.
Ouais, ça marche.
Ciao, ciao.
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode du podcast. Alors, puis-je vous demander un petit service? Laissez un commentaire sur iTunes. Cela aidera d'autres personnes comme vous à trouver le podcast et à être inspiré par les professionnels et entrepreneurs interviewés chaque semaine. Je vous dis merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Focus Immo Pacifique. Ciao !